Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, après une deuxième émission sur le sujet de l'égalité salariale femmes-hommes, tout particulièrement dans la fonction publique territoriale, aujourd'hui je vous propose, toujours dans le monde professionnel, d'aborder le sujet de la parité politique. Prête ?
Prête.
Nadine, quand on pense égalité femmes-hommes, on pense souvent monde du travail, égalité professionnelle. Mais on ne se pose pas forcément la question dans le champ politique. C'est pourtant un aspect qui touche de près les collectivités territoriales. Qu'en pensez-vous ?
Mais oui, c'est vrai. Nous sommes dans un pays où l'égalité civique et politique est acquise, en tout cas devant la loi, et du coup on oublie que la lutte pour les droits politiques, ça a été la première lutte pour les droits des femmes, après à l'accès à l'éducation, parce que la question s'est longtemps posée de leur apprendre à lire et à écrire ou pas. Et pour la petite anecdote, si j'ose dire, cette position médiévale à tous les sens du terme, a perduré jusqu'au XIXe siècle. Un écrivain comme Sylvain Maréchal a pu présenter en 1801 un projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Et c'est d'autant plus piquant que Maréchal était un révolutionnaire convaincu qui a publié en 1796 un manifeste des égaux. Donc tous les hommes sont égaux, d'accord, mais quand même pas les femmes. Voilà. Alors si je rappelle cette petite anecdote, c'est pour dire que le chemin était quand même vraiment long et qu'on est parti de très loin. Et dans ce très loin, la femme a longtemps été incapable au sens juridique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la capacité, qui n'a pas accès aux droits civils et civiques. Et ça, c'est en particulier le code civil de 1804, dit code Napoléon, qui entérine le statut de mineur des femmes, au même titre, dit le code, que les enfants et les idiots. Et il faut, ce sont les termes du code, hein, évidemment pas les miens. Et il faut attendre près de 150 ans pour que le droit de vote soit enfin accordé aux femmes, je le rappelle, après l'Espagne, après la Turquie, l'Arménie ou l'Ouzbékistan.
Effectivement. Pouvez-vous nous rappeler quelques dates de cette conquête ?
Alors, je vais simplement en rappeler trois, hein, il y en aurait beaucoup. D'abord, sur le plan symbolique, 1791, avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, ça lui a coûté la tête d'ailleurs, puis 1848, pour l'instauration du suffrage universel masculin. On avait déjà instauré le suffrage, mais masculin bien sûr, mais il n'était pas universel. Et enfin, 1944, quand les femmes obtiennent le droit de vote. Entre les deux guerres, 60 projets de loi, à peu près, en faveur du droit de vote des femmes ont été déposés devant la Chambre des députés et le Sénat, mais aucun n'aboutira, la plupart n'étant même pas examinés et jamais mis à l'ordre du jour. Et c'est ce constat qui a amené De Gaulle à légiférer par ordonnance, le 21 avril 44. Et donc, troisième date importante, 1944. L'ironie de l'histoire, c'est que la Troisième République de 1870 a refusé d'accorder le droit de vote aux femmes en arguant qu'elles étaient plus conservatrices et qu'elles risquaient de soutenir l'Église plutôt que la jeune République qui en avait bien besoin. Mais un siècle plus tard, c'est le contraire qui se produit. Et je voudrais simplement rappeler une enquête Ipsos qui a montré que si les femmes avaient été seules à voter au premier tour des présidentielles de 2002, Le Pen serait arrivé en troisième place, mais si les hommes avaient été seuls à voter, ils seraient arrivés en première place.
On va pas juger ce qui a été dit. Nadine, et maintenant, quelle est la place des femmes dans la vie publique ?
On peut faire deux constats sur le sujet. D'abord, devant la loi, évidemment, l'égalité théorique est acquise. Les femmes sont électrices, éligibles à toutes les fonctions. Ça, c'est pour la théorie et la loi. En pratique, les inégalités demeurent. D'abord parce que, en l'absence de loi contraignante, enfin par définition une loi est contraignante, la parité femmes-hommes n'est jamais atteinte. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos instances parlementaires, qui ne sont pas régulées par des lois paritaires. À l'Assemblée nationale, on compte 34% de femmes députées, ce qui est quand même un chiffre en nette progression, hein. Auparavant c'était vraiment catastrophique, et 32% de sénatrices seulement. Et ça, ça confirme au passage un constat qu'on a souvent vérifié, c'est-à-dire que sans loi, rien ne se passe. Les droits des femmes, les droits civils d'ailleurs en général, hein, sont toujours passés par la mobilisation et par les lois qu'elles permettaient de porter. Et si je le rappelle, c'est parce que les lois sur la parité qui sont passées à partir de 2002, à l'époque ont suscité mais beaucoup de résistance, beaucoup d'hostilité, comme tout ce qui touchait à l'action positive. Mais l'action positive, ce n'est pas qu'on remplace une inégalité par une autre inégalité, hein, ça n'aura aucun intérêt. C'est un dispositif de correction d'une inégalité historiquement constatée, massive et persistante, comme l'était justement la très faible part des femmes dans la politique française.
Mais il manque quelque chose là. Ce n'est pas le cas dans les instances territoriales. La loi sur la parité impose 50% de femmes partout.
Alors, oui et non. Du point de vue numérique, oui, la parité est atteinte, en tout cas dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux. Ça, c'est pour le quantitatif. Mais du point de vue qualitatif, là, le compte n'y est pas. Il y a autant de femmes que d'hommes élus, c'est indéniable, mais le partage du pouvoir n'est pas équitable. Les maires, les présidents, demeurent très massivement des hommes. Par exemple, les femmes ne représentent que 16% des maires et seulement 10% des présidences de conseils départementaux, 17% des présidences de conseils régionaux. Alors, si je le dis dans l'autre sens, ce sera peut-être significatif. Les hommes représentent par exemple 60% des élus municipaux, mais 84% des maires. Les hommes représentent 50% des élus départementaux, mais 90% des présidents de conseils départementaux. Conclusion, le plafond de verre, dont on a tellement parlé dans le monde du travail, pour désigner les obstacles qui empêchent les femmes d'accéder aux postes à responsabilité, ce plafond de verre donc s'applique largement à la vie politique.
Effectivement, à l'écoute de ces chiffres, c'est plus clair pour moi maintenant. Nadine, d'après vous, est-ce qu'on observe d'autres inégalités ou différences dans le partage du pouvoir ou des responsabilités?
Alors, il y en a une en particulier qui est plus discrète, mais qui est tout à fait récurrente et qui est une autre forme d'inégalité, c'est la sexuation des délégations. C'est-à-dire en fait que les délégations au sein des conseils municipaux ou régionaux départementaux se répartissent en fonction du sexe de l'élu. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est ce qui se passe. Les attributions sectorielles sont très fortement corrélées au sexe. Si je le dis de manière plus simple, les femmes élues s'occupent très majoritairement de l'éducation, de la petite enfance, des personnes âgées, du social. Tout ce qu'on appelle en anglais le care, le fait de prendre soin de l'autre. Les hommes élus de leur côté investissent des délégations qui sont plus stratégiques ou plus techniques, le budget, les finances, les transports, l'urbanisme. Et ça, on le constate à tous les échelons territoriaux. Dans les mairies, par exemple, la part des femmes est de 20% seulement dans les portefeuilles finances, mais 78% dans le social et 93% dans l'enfance, la petite enfance, les familles. Je choisis l'échelle des conseils régionaux, c'est encore plus schématique. Aucun homme n'est en charge de la délégation affaires sociales, gérée donc à 100% par les femmes, mais en revanche, ils sont présents à 90% dans la délégation budget finances. Alors, si j'évoque cette sexuation là des portefeuilles, c'est en fait parce que elle rappelle une autre sexuation importante dans la territoriale, c'est les filières d'emploi. C'est-à-dire que dans la fonction publique territoriale, les filières d'emploi sont très fortement sexuées, c'est-à-dire peu mixtes. Alors, on en a déjà parlé concernant l'égalité professionnelle. La filière secours incendie, par exemple, est masculine à 95%, la filière médico-sociale est féminine à 95%, 96% très exactement. La filière administrative est féminine à 90%, 82%, animation 72%, etc. Et du coup, on voit bien que ces conditionnements sont liés à des stéréotypes, parce que c'est pas une question de talent, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question génétique, les femmes ne sont pas inaptes à gérer une délégation technique, et les hommes ne sont pas inaptes à gérer une délégation sociale ou famille. C'est donc une question de représentation. Je pense qu'une majorité d'hommes ne se projette pas dans le secteur social, et qu'une majorité de femmes ne se projette pas dans le secteur technique ou financier. Et ces représentations-là nourrissent la réalité. Évidemment que ces femmes et ces hommes n'auront pas acquis d'expérience ou de compétences professionnelles dans ces domaines, au moins, et donc vont se tourner naturellement, entre guillemets, vers ce qu'ils connaissent le mieux, vers ce qu'ils maîtrisent le mieux, vers ce qui les intéresse le plus, au regard de leur parcours, de leur vécu. Et ça génère justement cette sexuation, alors dans la territoriale des filières et des métiers, et dans le monde politique des portefeuilles.
D'après vous, que peut-on faire pour changer les choses ? Pour favoriser l'accès aux femmes aux mandats et postes à responsabilité, pour éviter la répartition stéréotypée des délégations, pour agir sur la mixité.
Mais là, c'est comme ailleurs, hein. Il faut une politique volontariste, d'abord, pour vraiment changer les choses. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les lois paritaires ne suffisent pas. Ça veut dire qu'on doit agir à la fois sur les représentations et sur les réalités, bien sûr dans la société en général, mais dans le champ politique en particulier.
Si on aborde le stéréotype, comment on s'y prend ?
Alors, pour agir sur les stéréotypes, je pense que vraiment, il faut commencer par promouvoir la visibilité symbolique des femmes dans la société et dans l'espace public. En fait, pour que les filles, les femmes puissent se projeter dans une vie publique. Et ça, ça peut passer par des tas d'actions symboliques. Par exemple, la féminisation des noms de rue, des structures publiques, les collèges, les lycées, les bibliothèques, les établissements sportifs, les stations de tram. Par exemple, seuls 2% des rues portent des noms de femmes. Alors, vous voyez, on a une marge de progression là-dessus. Et évidemment, ça façonne, en quelque sorte, notre paysage mental. Ça, c'est une mesure qui est purement symbolique, mais en transformant aussi le paysage urbain, en transformant finalement les représentations qu'on a, ça inscrit la présence des femmes dans l'espace public au quotidien. Une autre manière de travailler sur les stéréotypes, c'est de les déconstruire avec des campagnes ciblées. Alors, ça peut être à destination enfin, des élèves, des apprentis, des personnes en recherche d'emploi, des agentes et des agents de la collectivité, etc. Ça peut prendre différentes formes, hein, des événements, des expositions, des campagnes. Et tout ce qui concerne aussi l'affichage public me paraît important. Bon, on sait bien que la publicité hein, reste un domaine qui est quand même très sexiste et qui joue à fond sur les stéréotypes pour vendre. Et ça implique parfois de véhiculer des clichés qui peuvent être dégradants pour les femmes. La collectivité peut agir là aussi dans ses représentations. Je pense à la mairie de Paris qui a introduit des clauses dans ses marchés publics d'affichage qui portent interdiction de toute publicité sexiste ou discriminatoire au sens élargi. Ça aussi, ça va petit à petit façonner le paysage, enfin visuel, mental, et changer les représentations. Et puis la collectivité peut promouvoir les figures féminines, alors dans la vie politique, puisqu'on parle de politique, mais aussi sociale, scientifique, sportive, culturelle, citoyenne. Par exemple, si vous êtes élu à la culture, à l'éducation, à la petite enfance, eh bien, c'est un bon lieu pour engager la réflexion sur la politique d'achat des bibliothèques, sur l'acquisition, sur la valorisation de livres pour enfants qui ne sont pas sexistes. Parce que là, les études montrent qu'il y a beaucoup de livres jeunes publics, et pour les ados aussi d'ailleurs, qui sont vraiment bourrés de clichés sexistes. Donc, on peut travailler à développer là aussi les livres qui vont dans le sens d'une vraie égalité. On peut mettre en valeur les autrices, les expertes dans les domaines masculins. Il y a par exemple un répertoire des femmes expertes. Donc, plutôt que de toujours inviter les mêmes personnes, plutôt que de toujours inviter les hommes, on peut aussi accorder une plus large part aux femmes dans les médias. Une autre piste pour les collectivités, c'est d'organiser des événements qui peuvent être consacrés alors au sport féminin, aux femmes scientifiques, aux techniciennes, enfin tout ce qui est en but d'habitude, hein, plutôt investi par les hommes. Donc tout ce qui va promouvoir la mixité des métiers et la mixité des fonctions, ça permet de faire bouger les représentations, ça fait apparaître la place des femmes dans la société, ça sort des stéréotypes de sexe qui conditionnent encore le choix des filles et des garçons et qui plus tard vont aussi conditionner un investissement différent du champ politique.
Et au niveau politique proprement dit, comment favoriser une véritable égalité ?
C'est vrai que le milieu politique, et comme tous les autres milieux, hein, il reste encore assez souvent machiste ou patriarcal, c'est une réalité constatée. Et le premier travail, c'est de lutter contre le sexisme politique à tous les niveaux. Alors là, malheureusement, il y a pas mal d'anecdotes, je pense que tout le monde s'en souvient un petit peu. Je rappellerai celle de cet épisode désolant d'une femme ministre sifflée à l'Assemblée nationale parce qu'elle portait une robe à fleurs. Plus récemment, un tweet sexiste d'un parlementaire, je cite, hein, le pot de maquillage qu'une sénatrice se mettrait sur la tête, voilà. Et on pourrait citer bien d'autres exemples. Et ce type de remarques, ce type de comportement sexiste, ça peut exister au niveau municipal, au niveau régional. Et la plupart des adjointes ou des conseillères que j'ai pu soit fréquenter, soit interroger, témoignaient de ce sexisme ambiant. Alors parfois au sein de leur parti, parfois au sein de la classe politique en général. Voilà. Donc il faut déjà acter hein, que ce sexisme existe, ne pas être dans le déni. Et au-delà du sexisme, les femmes politiques ne sont pas à l'abri non plus du harcèlement sexuel, qui est encore aussi présent dans le monde du travail et dans la société. Et là, on a des témoignages hein, de femmes élues, de collaboratrices, d'attachées parlementaires, et qui témoignent de cette réalité du harcèlement sexuel qui est parfois vécue par certaines femmes dans le milieu politique. Donc ça, bien sûr, ce sont des propos, ce sont des comportements qui sont délictueux, qui donc ne sont pas tolérables, et là, je pense que les partis ont vraiment un travail interne à faire pour intégrer une culture de l'égalité qui soit vraiment très claire sur ce sujet. Alors les élus peuvent se former, ça c'est déjà aussi important, doivent inscrire dans l'agenda politique des collectivités territoriales, cette diffusion d'une culture de l'égalité, cette lutte contre le sexisme, qu'il soit politique ou professionnel. Et par exemple, les collectivités peuvent profiter de la loi de transformation de la fonction publique, la loi récente du 6 août 2019, qui impose à toutes les collectivités territoriales un dispositif de signalement, de traitement, du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles. Voilà, et ça, ça peut valoir aussi, bien sûr, pour le personnel politique.
Effectivement. Jusque-là, on touche à l'aspect répressif de la loi. Et d'après vous, quelles actions positives peut-on également développer ?
Alors, je vais citer deux aspects qui me paraissent particulièrement importants pour arriver à agir de manière positive. Le premier aspect, c'est la possibilité pour les femmes de s'impliquer dans la vie politique et d'y trouver leur place. Parce qu'évidemment, quand vous êtes désireuse de vous investir dans la vie publique, quand vous êtes une femme élue au sein des collectivités territoriales, bah, vous rencontrez les mêmes obstacles que toutes les autres femmes au travail. Le poids du travail domestique, la charge familiale, la double journée, l'autocensure pour occuper les postes de pouvoir. Et du coup, si on n'agit pas sur les conditions concrètes de l'engagement politique, bah, certaines femmes, de facto, vont être écartées de la vie publique, alors que elle pourrait s'y investir. Alors, je vais prendre un exemple qui peut être un peu extrême, c'est celui d'une femme en situation monoparentale. Ben, évidemment, s'il lui incombe toute la charge du travail domestique, toute la garde d'enfants, comment est-ce qu'elle pourra s'investir dans la vie politique ? Il y a souvent lieu le soir, le week-end. Et donc, ce type de frein qui est organisationnel, qui est matériel, ben, c'est là-dessus qu'il faut aussi essayer d'agir, si on veut que les femmes puissent vraiment prendre leur place dans la vie politique. Alors, comment faire ? Moi, je me souviens d'une collectivité territoriale qui finançait, voire qui organisait un mode de garde pour les enfants d'élus, de manière à ce que la garde d'enfants ne soit pas un obstacle à l'investissement des mères, ou des pères bien sûr, dans la vie publique. Il y a une autre solution aussi, qui est d'élaborer une charte des temps, qui peut être un bon moyen d'articuler les trois temporalités, la professionnelle, la familiale et la politique. Voilà. Donc il y a vraiment une organisation très matérielle, hein, voire financière, qui peut être mise en place pour permettre aux femmes élues d'investir cette vie politique. Et le second aspect important, c'est celui du soutien interne. Le marrainage, les réseaux féminins, les associations de femmes élues. Alors il y en a dans tous les territoires, hein, des associations de femmes élues, donc là c'est quand même assez facile de pouvoir se tourner vers elles. Et donc ces structures, ces dispositifs permettent aux femmes élues ou qui souhaitent être élus, je pense, de se retrouver, d'échanger, de débattre, ça c'est un premier aspect important, mais aussi de monter en compétence, si elles en ont besoin, de s'acculturer à la vie politique en étant accompagnées et soutenues. Et ça, à mon sens, ce n'est pas seulement aux femmes élues de faire la démarche, c'est aussi le travail interne des partis. Inscrire la parité dans leur statut, la faire vivre, actuellement très peu de partis hein, l'ont inscrit dans leur statut. Je donnerai pas de nom, mais si on regarde les statuts des différents partis politiques, c'est plutôt évocateur. Et ça, ça les pousserait à encourager, à accompagner les candidatures féminines. En fait, on a le même problème dans le monde du travail. On dit, on recruterait bien des femmes, mais on n'en trouve pas sur ces hauts postes. Ah bah, on prendrait bien des femmes élues, mais on n'en trouve pas. Mais oui, si on ne les encourage pas, si on ne le permet pas concrètement, si on ne les accompagne pas, elles vont s'auto-censurer ou elles seront pas en mesure concrète d'aller vers ces postes. Donc voilà, il y a aussi un travail des partis pour aller dans ce sens, pour qu'elles les partis développent leur culture de l'égalité. Et ça, ça permettra aux femmes de s'investir comme les hommes dans la vie politique, de ne pas subir ces freins que je viens d'évoquer, les freins psychologiques, de l'autocensure, les freins organisationnels, les freins institutionnels qui les empêchent d'exercer vraiment leur rôle de citoyenne.
Vous parliez des partis, vous parliez des partis politiques. Hein.
Oui, bien sûr, hein, je parle des partis politiques. D'ailleurs, mais c'est une bonne question que vous posez, parce que dans les syndicats, la question se pose aussi, elle rencontre le même type de frein et il y aurait sans doute le même travail à faire en interne.
Le chemin est encore long, dirait-on. Hein.
Alors, oui, non, je réponds un peu en normande. Je dirais pas forcément dans la mesure où moi je vois quand même des signes positifs.
C'est aussi un stéréotype, attention.
Oui, exactement. Un autre, comme quoi, hein, on est toujours conditionné et le langage, c'est le premier conditionnement des stéréotypes, tout à fait juste. Et donc, je disais, pas forcément si long, dans la mesure où moi, je vois un signe positif, c'est justement le scandale que ça cause. Quand il y a des comportements politiques, là, sexistes, comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, de siffler une femme ministre en robe, un twist sexiste sur le maquillage, etc., ou ce partage très inégal du pouvoir politique. Eh bien, le fait que ça fasse maintenant scandale, pour moi, ça montre quand même que les mentalités changent et sont en train d'évoluer. Ce qui paraissait mais normal encore il y a 10 ans. Hein. Personne n'aurait finalement remis en question. Ça choque de plus en plus aujourd'hui. Mais, cela dit, on l'a vu, la parité ne garantit pas l'égalité. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut qu'il y ait vraiment une culture de l'égalité qui se développe dans les mentalités, dans les représentations, mais aussi dans les pratiques. En fait, c'est une révolution culturelle, hein, en quelque sorte, du monde politique.
Et dans l'éducation.
Et dans, évidemment, là, on est vraiment à la racine, à l'origine aussi du problème. Tout à fait d'accord, la première étape décisive, c'est celle de l'éducation. En tout cas, c'est sûr, il n'y aura pas d'égalité femmes-hommes si les femmes ne participent pas à la vie publique, à la vie politique, la vie civile, la vie citoyenne. Et ça, c'est un enjeu d'égalité, stricto sensu, mais c'est aussi un enjeu de représentativité. 50% bien sûr de femmes, et elles doivent apparaître aussi dans la vie politique. Donc la classe politique doit être exemplaire, et la fonction publique doit l'être aussi. Les collectivités territoriales ont un rôle vraiment essentiel à jouer. Après tout, elles portent toutes inscrites au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Donc pour que cette égalité devienne une réalité politique et sociale, aussi bien la classe politique que la fonction publique territoriale et l'éducation nationale, vous l'avez rappelé, ont leur rôle à jouer.
Bon, ce chemin long est en train de se raccourcir, on s'approche de la fin.
On espère.
Nadine Jasmin, merci infiniment de cet éclairage.
Oui, merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère qu'à l'écoute de l'intervention de Madame Jasmin, vous aurez un avis sur le sujet de la parité politique dans le monde professionnel et surtout dans le monde territorial. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour un 10e épisode sur le sujet de l'égalité femmes-hommes.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.